You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Brexit. Europa Voice numéro 26 déjà. 26 et Dieu sait qu'on a beaucoup parlé du Brexit. Aujourd'hui, on va parler du Brexit, bien entendu, mais on va commencer avec autre chose. Déjà, bonjour Nathanaël.
Bonjour Christophe.
Et bien on va commencer avec ce qui nous intéresse, parce que l'Europe, c'est pas que le Brexit, on l'a dit et redit et re-redit dans ce programme. À la Commission européenne, on a une liste des noms, une liste des représentants, on a un organigramme en fait.
Lundi 10 septembre, la nouvelle Commission européenne a été dévoilée. Alors dedans, on trouve plein de grands noms, de personnes dont on a dressé certaines fois le portrait dans notre émission d'Europa Voice. On a le néerlandais Frans Timmermans, par exemple, en charge du climat. On a la très médiatique danoise Margrethe Vestager à la concurrence. Et on a aussi notre française cocorico nationale, Sylvie Goulard, au marché intérieur, notamment en charge de l'industrie de la défense.
Donc ça, on peut lire quoi dans cette composition ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information de la composition de cette Commission européenne ?
Alors d'abord, la Commission européenne, elle est composée d'un commissaire que chaque État membre envoie. Donc vous avez une représentation, j'allais dire, assez parfaite, et c'est important de le dire pour nos auditeurs australiens, c'est véritablement chaque État européen envoie un commissaire de sa nationalité au sein de la Commission européenne. Ensuite, c'est une Commission européenne qui est parfaitement paritaire, c'est aussi un point important à signaler, c'est-à-dire qu'on trouve autant d'hommes que de femmes commissaires européens. Maintenant, ce qu'on peut dire sur cet organigramme, c'est que cet organigramme n'est pas encore définitif. L'idée, c'est maintenant qu'il va y avoir des auditions entre le 30 septembre prochain et le 8 octobre, avant l'entrée en fonction officielle de ces commissaires le 1er novembre. Mais, et il y a un mais, Christophe...
En Europe, il y a toujours un mais. Hein.
En Europe, il y a souvent même plus qu'un mais. C'est que certains commissaires ont déjà été refusés après certaines procédures d'audition. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Un Italien avait été refusé en 2004, une Bulgare avait été refusée en 2009. Donc, si vous voulez, ce ne sont pas simplement des auditions pour la forme, mais ce sont véritablement des auditions qui vont permettre ou pas de valider le nom de ces commissaires européens.
Pour la France, on sait que... on ne va pas détailler tout le monde, mais pour la France, on sait que, en gros, le gouvernement français a mis en avant la plus allemande, la plus alémanique, on l'a dit plusieurs fois dans notre programme, des Françaises pour cette Commission européenne.
Oui, effectivement, Christophe, le président de la République, Emmanuel Macron, a choisi Sylvie Goulard, donc ancienne ministre de son gouvernement, ancienne députée européenne, proche de Romano Prodi, grande connaisseuse des questions européennes et germanophile patentée. Donc véritablement, on l'avait dit dans notre précédente émission, Emmanuel Macron met le paquet sur cette commissaire française. Maintenant, le problème, c'est que Sylvie Goulard, elle devra répondre de questions difficiles. Elle est notamment sujette d'une enquête en France sur un emploi fictif présumé. Alors même si pour l'instant l'enquête elle n'a rien démontré au niveau européen, elle devra toujours répondre en fait d'un salaire qu'elle recevait aussi d'un laboratoire, d'un think tank US alors qu'elle était députée européenne. Donc évidemment la candidature de Sylvie Goulard elle est bonne, c'est une personnalité. Maintenant, comme l'a rappelé d'ailleurs Jean Quatremer, qui est un peu le trublion des questions européennes à Bruxelles, dans cette période de défiance des populations vis-à-vis des exécutifs européens, reste à voir comment Sylvie Goulard va se dépatouiller de ces questions, justement au sujet de cet emploi qu'elle avait alors qu'elle était députée européenne.
Alors on parlait de l'organigramme, petit pied de nez peut-être de l'histoire. À la tête de tout ça, il y a un Irlandais.
Oui, alors c'est extrêmement intéressant parce que c'est très politique et les nominations au sein de la Commission européenne, elles sont aussi faites pour satisfaire certaines velléités nationales ou certains projets nationaux. D'ailleurs, là, on voit que c'est politique. Et juste avant d'enchaîner sur cet Irlandais, c'est par exemple qu'on a nommé quelqu'un de certainement très compétent pour la Hongrie, maintenant, qui est accusé d'avoir été un proche d'Orban, qu'on accuse lui-même de mettre à mal l'état de droit. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut jongler à la fois entre des impératifs et des expertises reconnues au niveau européen et en même temps des caractéristiques nationales qui, des fois, pourraient ne pas passer. Et donc, pour répondre à votre question, Christophe, oui, au commerce, c'est-à-dire en charge notamment, pas que, mais notamment de gérer toutes les questions de traités de libre-échange, des free trade agreements, on retrouve un Irlandais, Phil Hogan, chose extrêmement intéressante en période de Brexit quand même.
Absolument, vous avez dit le mot Brexit, alors moi mon conseil c'est deux aspirines dans un verre d'eau, On prend tout ça, on respire, parce qu'il s'est passé encore des choses extraordinaires en une semaine. C'est incroyable ce qui change en une semaine dans toute cette histoire du Brexit. Là, c'est une semaine presque comme toutes les autres dans cette histoire du Brexit, avec 1 million de nouveautés.
Oui, maintenant, Christophe, c'est peut-être si la prochaine fois qu'on enregistre cette émission, on n'a pas de nouveautés sur le Brexit, c'est peut-être là qu'on va s'inquiéter. Non, effectivement, depuis la semaine dernière, il s'est passé 3-4 événements majeurs dans le cadre du Brexit. D'abord, on l'avait dit à nos auditeurs, on l'avait rappelé la semaine dernière, le Parlement, depuis lundi soir, est suspendu, et ce, jusqu'au 15 octobre. C'était tout le processus de prorogation dont on avait parlé. Donc là, suspension du Parlement. Deuxième chose, c'est l'opposition à Boris Johnson qui a fait voter un texte qui rend en fait impraticable un Brexit sans accord au 31 octobre. Chose intéressante, texte devenu loi. Et troisième élément de rebondissement dans cette saga du Brexit, c'est finalement le fait que pour l'instant, au vu de la perte de la majorité par Boris Johnson, il n'y aura pas d'élection anticipée le 15 octobre lorsque le Parlement est censé revenir en exercice.
Sauf, en tout cas, si, la loi écossaise, parce que c'est ce qui s'est passé, un juge écossais a déclaré la prorogation illégale, donc ça, c'est part vers la Cour suprême britannique, il y a ça, et l'autre option qu'on va peut-être arriver à voir, ce qui est hallucinant quand on y pense, c'est que Boris Johnson va sûrement devoir lancer un vote de non-confiance, de no-confidence, contre lui-même, et demander à ses députés qui le suivent, les partisans de Boris Johnson, de voter contre lui pour pouvoir forcer la main à une élection. Sinon, c'est droit dans le mur, parce qu'on n'a plus vraiment de solution, en fait.
Alors, je vais utiliser une double négation. Plus aucun scénario n'est inenvisageable, ou en tout cas, tous les scénarios sont envisageables. Alors, effectivement, vous l'avez dit, un juge écossais s'est prononcé, alors très simplement pour nos éditeurs, c'est que Boris Johnson aurait d'une certaine façon trompé la reine dans les motifs avancer pour proroger le Parlement. Donc maintenant, c'est à la Cour suprême à Londres, juridiction suprême en Grande-Bretagne, de dire ou non si les motifs exposés à la reine pour donner le feu vert final de la prorogation du Parlement étaient justifiés ou pas. Ça, c'est la première chose pour répondre à votre question. Et la deuxième chose, donc ça, c'est le côté, j'allais dire, légal, le judiciaire. La deuxième chose maintenant sur le côté politique, et vous avez raison, le seul moyen pour Boris Johnson de convoquer des élections anticipées, c'est de faire un suicide politique, en fait. C'est de demander à son propre camp de voter contre lui, contre la confiance à son propre gouvernement. Si vous voulez, c'est presque une dissolution chiracienne, mais voulue.
Oui, c'est vrai. Et ce qui fait peur un peu dans tout ça, entre guillemets, peur si, selon où on se passe, mais ce qui peut faire peur en Grande-Bretagne, on va dire, c'est qu'en fait, il y a Nigel Farage derrière qui est en train de respirer très près du cou de Boris Johnson et qui est en train de lui proposer une alliance. Et si cette alliance s'avérait fructueuse, s'avérait effective, dans le cas d'une nouvelle élection, là, ça pourrait changer la donne. Et c'est pour ça que l'opposition de Jeremy Corbyn, aujourd'hui, ne veut pas d'élection avant le 31 octobre.
Oui, alors parce qu'en fait, évidemment, nous, quand on pense opposition, on pense au Labour, au parti travailliste de Jeremy Corbyn. Mais quand Boris Johnson, lui, dit qu'il veut que le Parlement revienne le 15 octobre parce qu'il aura le temps de négocier entre le 15 octobre et le 31 octobre, date à laquelle le Brexit devrait être appliqué,
alors que tout le monde dit en Europe, au niveau de l'Union européenne, qu'aucune nouvelle proposition, aucune nouvelle négociation a été même entamée en ce moment, il faut le rappeler.
Oui, ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que, encore une fois, et là je reprendrai les mots du président de la République, Emmanuel Macron, on est passé d'une crise européenne à une crise britannique. Donc c'est d'abord au niveau de la Grande-Bretagne que cela serait tout. Mais surtout, ça veut dire que l'Europe, elle interviendra à la fin de ce processus et elle sera très claire en disant: oui, il y a des raisons de demander une prolongation du Brexit, ou non, il n'y a pas de raison. Et d'ailleurs, c'est une des stratégies aussi de Boris Johnson, c'est de trouver un allié, une espèce de cinquième colonne dans l'Union européenne, qui appuiera sa demande de prolongation du Brexit. Mais quand, de toute façon, l'opposition travailliste demande cette prolongation de délai de 3 mois pour mettre en œuvre le Brexit, de toute façon, il faut le rappeler à nos auditeurs, ça n'est pas encore du tout effectif, parce que c'est l'Europe qui aura le dernier mot. Mais ce que je veux dire par rapport à Boris Johnson, c'est qu'en fait, lui, son idée, c'est de dire entre le 15 et le 31 octobre, j'aurai le temps de négocier ce Brexit. Mais en fait...
Je vous arrête, parce que je ne sais pas si on l'entend, mais le ciel a un vrai temps anglais derrière nous.
Oui, il a commencé à faire un temps londonien sur Melbourne. Non. Mais donc l'idée de Boris Johnson, dans sa tête, c'est plutôt de pourrir la situation. C'est-à-dire, en fait, d'arriver, d'être devant un état de fait le 31 octobre. On a essayé, on a eu ces 15 jours pour négocier un accord sur le Brexit. On n'a pas trouvé. Donc maintenant, ce qui s'applique, c'est le no deal.
Et dans tout ça, il y a une commission qui a été appelée. On veut savoir ce que le gouvernement sait ou savait dans l'objectif d'un no deal, puisque le gouvernement dit que ça va être facile, mais l'opposition a demandé à une commission de nous expliquer tout ça.
Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on a appelé l'opération Yellowhammer, qui a été, dont certains éléments ont été dévoilés cette semaine. C'est l'opposition avait dit, très bien, alors dans le cas d'un no deal, qu'est-ce qui se passera? Et en fait, il y a d'énormes risques associés à un Brexit sans accord. Il y a des risques de pénurie de nourriture, de carburant, de médicaments, de blocage des ports, de rétablissement de la frontière nord-irlandaise, parce qu'en fait, dans tout ça, on n'est même pas encore à approcher cette question du backstop. C'est-à-dire que dans tout ça, il y a aussi la question nord-irlandaise qui n'est pas résolue. Et puis ces risques, en fait, ils sont amplifiés parce que, et c'est un élément extrêmement intéressant de ce rapport, c'est que l'état de préparation du public et du secteur marchand en cas de Brexit sans accord reste extrêmement faible. C'est-à-dire que l'opinion publique, psychologiquement, n'est pas encore prête, selon ce rapport, à entendre parler d'un Brexit sans accord. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de conséquences? Ça veut dire, et un exemple très concret pour nos auditeurs, que la traversée de la Manche, donc entre la Grande-Bretagne et la France, elle sera fortement perturbée et jusqu'à 85%, c'est un chiffre intéressant, 85% des gros camions, des poids lourds britanniques ne seront pas en mesure de franchir les contrôles douaniers. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte en termes de dislocation des échanges, de perturbation du trade entre la Grande-Bretagne et la France et l'Europe en général, ce que ça représente.
85%, je suis d'accord. Est-ce que c'est pas, parce que c'est le mot du gouvernement et des partisans du Brexit, est-ce que c'est pas une vision un peu alarmiste de penser tout ça, ou le fait même que tout ça se soit inscrit dans des communications, dans des emails, dans des échanges au sein du gouvernement, ça veut dire que peut-être il y a quelque chose de vrai là-dedans.
Je suis pas en mesure de vous dire, Christophe, clairement si ces chiffres sont sûrs ou sont sous-estimés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une telle incertitude vis-à-vis des scénarios qu'il est évident que c'est fortement dérangeant pour la population d'imaginer les conséquences d'un seul scénario. Et c'est peut-être dans ce cadre-là que imaginer ou sous-estimer en tout cas les conséquences d'un Brexit sans accord, ça peut se relever très dangereux, révéler très dangereux. C'est parce que la population, on lui a dit et on lui dit jusqu'au dernier moment, non, il est possible de trouver un accord, on va encore avoir un délai. Donc, j'allais dire, peut-être que les chiffres se veulent un peu alarmants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne dans l'état d'esprit n'est prêt à avoir, dans maintenant un peu plus d'un mois, un Brexit sans accord, comme ça, du jour au lendemain.
La question nord-irlandaise est quand même super intéressante aussi, parce que on va voir à quel point Boris Johnson est en fait un défenseur de l'Irlande du Nord, parce que la solution facile, ce serait peut-être d'essayer de promouvoir un rattachement de l'Irlande du Nord à l'Irlande.
Alors là, vous mêlez des problèmes grand-breton à l'intérieur.
Oui, mais en fait, c'est pas infondé, parce qu'en fait, il y a eu un sondage qui est sorti en Irlande du Nord, et il y a 58% des personnes qui ont été interrogées en Irlande du Nord qui préféreraient un rattachement à l'Irlande qu'un backstop.
La question du backstop, de toute façon, elle est aussi mouvante, et c'est ça qui est terrible et qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas une position fermée. Par exemple, Boris Johnson a rendu visite... est allé en Irlande ce début de semaine
avec un très beau moment de télé où ils ont tous les deux dit le contraire de l'autre en se serrant la main.
Ça reste des politiques, mais en tout cas, par exemple, la question du backstop, c'était pas oui ou non, notamment de la part de notre ami irlandais, c'était plutôt moi je suis prêt à entendre, ou en tout cas à voir quelles seraient les possibilités d'un backstop. Donc c'est aussi ça qui est compliqué, c'est que la question du backstop, c'est pas simplement on rétablit ou non une frontière. C'est un peu comme la question du Brexit, c'est pas simplement on sort ou pas de l'Europe, c'est ok, si on sort, et c'est là où on revient aussi de nouveau à la question écossaise du référendum, on en avait parlé la semaine dernière, où dans le cadre du référendum écossais, d'indépendance écossaise, on avait donné une liste des conséquences en cas de oui ou cas de non, et c'est ça qui manque encore, et c'est cette question de pédagogie. Donc je dirais la question du backstop, en fait, oui, effectivement, si elle est résolue, elle pourra permettre de faciliter ce Brexit et la mise en place de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne, mais encore faut-il savoir... Qu'est-ce qu'on entend derrière ce backstop qui est difficilement traduisible en français, filet de sécurité, rétablissement d'un simulacre de frontières. Enfin, il y a plein, même, vous voyez, même le traduire, en fait, c'est compliqué.
Absolument. Je vois une petite éclaircie, je vais vous laisser y aller. Il y a une éclaircie en tout cas ici, mais pas forcément une éclaircie dans toute cette histoire du Brexit.
Non, et comme le dit notre ami le speaker qui a démissionné cette semaine, juste avant la prorogation du Parlement. Maintenant, ce qu'il faudrait peut-être pour ce Brexit, c'est un peu d'ordre et d'ordre.
Absolument, merci.
Merci Christophe.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.